un bout de cet épître, de l'épître aux Thessaloniciens, eh bien, j'ai souvent été encouragé par cet épître. Déjà avant et pendant notre séjour aux États-Unis l'année passée, en pensant au décès probable de ma mère, j'avais reçu quelques versets du chapitre 4. Il nous avait fait du bien avec Rose Blanche, mais aussi il a permis d'encourager mes parents dans ce chemin long et difficile qu'ils ont vécu depuis le mois de mai jusqu'en novembre. Ce passage, c'est celui qui concerne l'espérance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire qui sont décédés. Puis plus récemment, un mardi matin, à la début du chapitre 5, la méditation qui nous était proposée, c'était le début du chapitre 5. Et là aussi, ça m'a interpellé. Tout particulièrement ce terme de dormir, qui revient plusieurs fois, ça veut dire quoi? Et puis, il n'est pas toujours dans un contexte qui a le même sens. Alors j'ai scruté, interrogé ces mots dans le dictionnaire en termes grecs. J'ai cherché à mieux comprendre ce que Paul voulait dire. Et l'encouragement à en tirer pour nous aujourd'hui, dans notre situation où il y a passablement de troubles, des choses qui peuvent nous désécuriser. Et puis, bien d'autres chrétiens dans le monde y font face, ou y ont fait face, et on voit comment Dieu vient toujours faire fortifier son Église, la faire grandir. Alors, je vais d'abord vous présenter l'épître de Paul dans sa structure globale. Les illustrations que vous allez voir, elles sont tirées de Bible Project. C'est une série d'explications au début des livres qu'on trouve dans l'application Bible. Et il y a cette petite vidéo qui nous résume les épîtres ou les différents livres. Alors, le voyage de Paul et Silas, qui est mentionné dans Actes 17, il est allé à Thessalonique et là, beaucoup de Juifs et de Grecs se sont convertis. Ils ont abandonné le culte adressé aux idoles et cet abandon menaçait l'équilibre religieux. La déclaration que Jésus-Christ est le souverain qui règne dans le monde a déclenché l'hostilité des autorités, qui voyaient une menace directe à celle de l'empereur. Des dures persécutions suivent. Alors les frères de Thessalonique, ils exfiltrent Paul et Silas et ils vont à Bérée. Mais Paul est inquiet pour cette jeune église qui est dans la tourmente. Il essaye une fois, deux fois de les revisiter, mais il ne peut pas. Alors il envoie Timothée. De retour, Timothée rend compte de la persévérance et de la force de résistance dont fait preuve l'église de Thessalonique dans la persécution. Ça, c'est pour Paul un immense encouragement. Et on peut le lire dans cet épître à plusieurs passages. Alors, comment est-ce qu'elle est construite, cette épître? Il y a deux textes principaux qui sont entouré de trois prières. La première prière est une prière de reconnaissance et d'action de grâce pour ce que les Thessaloniciens vivent. Paul remercie Dieu. Puis après, dans les chapitres 1 à 3, le premier grand carré, mais Paul dit qu'il n'a pas seulement annoncé l'évangile en parole, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine certitude. Certitude. Dans ces chapitres, il relève aussi la fidélité exemplaire des Thessaloniciens. Devant la découverte de l'immensité de l'amour de Christ, ils ont choisi de se détourner de toutes les idoles, de servir le Seigneur et de tenir bon malgré le prix à payer. Et on les voit là qui célèbrent la scène devant ce qui est en arrière-plan, le temple de Zeus, puis les gens qui n'ont pas l'air très contents. Il y a des liens d'affection très profonds, très étroits, qui lient Paul à cette communauté, tout comme cette communauté aime Paul. Les relations saines et un cœur de service, voilà comment Paul exerce son ministère. Et je trouve que c'est un bel exemple pour chacun de nous dans nos responsabilités. Au sujet de l'opposition et des épreuves qui sont subies, Paul fait un parallèle entre les persécutions que les Thessaloniciens subissent de la part des Grecs, mais aussi de celles qu'il subit de la part des Juifs et un peu partout où il a prêché dans les villes. Et il étend ce parallèle à celle vécue par Jésus, par les prophètes qui l'ont précédé, et par les églises de Judée qui sont tous persécutées par un peuple endurci et hostile. Alors on a là une deuxième prière qui est adressée par Paul à Dieu pour que l'amour, la sainteté des croyants croissent et puis pour leur persévérance. Dans les chapitres 4 et 5, Paul rappelle comment se conduire pour plaire à Dieu. Au sein de la société païenne de l'époque, qui est dominée entre autres par le culte d'Aphrodite, il invite les Thessaloniciens à vivre dans la sainteté, dans la pureté sexuelle, dans l'honnêteté, dans l'amour, dans le respect, dans le service des autres. Il enchaîne avec des réponses concernant les questions qui touchent sur l'espérance du prochain retour de Jésus. Le deuil et le chagrin devant la mort de leurs proches, persécutés ou décédés, interpellent la foi des Thessaloniciens, interpellent leur espérance. Alors Paul prend la peine d'y répondre dans ce chapitre 4 et puis dans la deuxième lettre qui suit. Il décrit, d'après une parole reçue du Seigneur, la deuxième venue de Jésus. Si je résume, il descendra du ciel, les morts ressusciteront, puis ensemble avec les vivants, tous seront élevés dans les nuées à la rencontre. Rien ne peut faire pour être ainsi toujours avec lui. Conclusion, rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. Il règne au-dessus de la mort. Donc on voit sur ce diapo une comparaison. Sur votre gauche, c'est l'illustration de l'empereur qui arrive dans une ville et puis qui est accueilli par tous ceux qui sont ses partisans. Et de l'autre côté, il y a un parallèle où on voit Jésus qui est dans le ciel, qui attire à lui ceux qui sont morts. On voit ceux qui sortent du tombeau, on voit encore un qui est plein de bandelettes. Et puis on en voit deux, trois qui sont tout heureux. Alors cette espérance nous aide à être fidèles jusqu'au retour du Seigneur. Alors, cette deuxième partie, ces deux groupes de chapitres, elle se termine par une troisième prière. Et c'est Paul qui prie et qui dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. » Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, c'est lui qui le fera. Après ce survol de l'épître, on va lire le texte qui retient notre attention ce matin. Non. C'est dans Thessaloniciens, chapitre 5, les versets 1 à 10. On lit dans la version seconde. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur la nuit. Et quand les hommes diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur leur femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous, qui sommes du jour, soyons sobres, enfilant la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du colère, mais la possession. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Voilà pour la lecture. Ce chapitre, il commence en nous rappelant que le temps de Dieu, le kairos, son calendrier, sont de son seul ressort. Nous aspirons à la venue de Jésus, mais nous ne savons pas quand le jour viendra. Agir en fonction de pronostics, c'est un teaser pour écouter la suite, cette image qui vient. Nous ne savons pas quand le jour viendra. Alors, c'est un appel à être veillant, à être vigilant, à être des sentinelles porteurs de lumière pour éclairer autour de nous ceux qui cherchent et puis pour faire reculer les ténèbres. Jésus lui-même a dit que seul le Père sait quand le royaume de Dieu va être rétabli. D'où cette notion du voleur qui arrive, on ne sait pas quand, et qui surprend tout le monde. Paix et sûreté, on l'a déjà vu deux fois, il arrive maintenant, c'est un slogan. Mais c'est fondamentalement une soif profonde qui est au chacun de nous. Et de tout temps, dans toutes les civilisations, on aspire à cette paix, à cette sûreté. Mais du temps de Paul, paix et sûreté, ça a une autre connotation. La Pax Romana, elle est maintenue par la violence, par l'asservissement, par l'occupation militaire. Ce genre de paix induit tellement de souffrances et il laisse tellement de gens sur leur faim, affamés de vraie justice. Paul, en nous rappelant que nous ne sommes pas dans les ténèbres pour que nous soyons surpris par le jour de l'Éternel, mais que nous sommes tous des enfants de lumière, nous emmène dans une série de comparaisons et de contrastes. Je vous partage quelques pistes. Il est parlé du jour. Être du jour. Ça qualifie ceux qui sont sauvés, ceux qui ont reçu l'évangile, qui, comme il est dit dans le prologue de Jean, la lumière est venue dans le monde et les hommes n'ont pas reçu. Mais, ça arrive à bloquer, Claude, c'est en train de tourner tout seul. Alors, j'en étais... Dans le prologue de Jean, Jésus est venu, lumière dans le monde, dans la lumière. Parçu, mais ceux qui reçoivent l'évangile, qui reçoivent Jésus, sont dans la lumière. Il y a aussi l'expression « le jour de l'Éternel », « le jour du Seigneur ». Ça désigne le jour de la délivrance qui vient, qu'on attend. C'est celui où l'univers entier sera jugé et libéré, libéré du mal et de son emprise hégémonique. C'est l'accomplissement de notre espérance de chrétien. Maintenant, on va revenir un petit peu en arrière, puisque ça nous tourne tout seul, là. J'ai envie de parler de la lumière et des ténèbres. C'est une évocation de l'opposition du bien et du mal. On trouve ça dans beaucoup de cultures, et aussi ici. Le royaume de Dieu est opposé aux œuvres du malin. Les œuvres des ténèbres, elles entraînent le mal, le mensonge, le malheur, la perdition, la destruction et l'esclavage. Et celles du royaume sont vraiment totalement opposées. C'est dans celles-là qu'on est appelé à vivre. La sobriété et l'ivresse. La société de l'époque, comme celle d'aujourd'hui, nous offre beaucoup de substances ou d'activités qui étourdissent nos pensées jusqu'à les asservir. Ça prive notre cœur d'entendre Dieu. Si nous sommes du jour ou bien si nous sommes de la nuit, ce n'est pas la même chose, on n'a pas les mêmes attitudes et on est encouragé à être du jour. L'éveil, la vigilance et le sommeil. Oui, l'éveil, la vigilance, le sommeil. Voilà, je me retrouve dans mes pages, pardon. La compréhension qu'on a de l'amour de Jésus et du jour du Seigneur éclaire et stimule notre vigilance, notre éveil et même notre sommeil, puisque l'on peut dormir en paix. Le mot dormir, il apparaît 4 fois dans ce passage. Et ça m'a particulièrement intrigué parce qu'il n'y a pas toujours la même connotation. Et si on regarde dans le dictionnaire, dormir nous dit... T'arrives à arrêter, Claudin ? Je ne comprends pas. Il faut peut-être aller sur le timing, la temporisation. J'avais fait sur un bout, puis là, c'est revenu. Je ne comprends pas. Alors, l'idée, définition qu'on peut trouver pour dormir dans ce texte, ce mot grec, il dit tomber de sommeil, s'assoupir, avoir besoin de dormir. Ça dit aussi tout naturellement dormir, se coucher. Une autre définition, c'est être mort, par euphémisme. On dort pour toujours et au péché. Une métaphore qui dit c'est céder à la paresse et au péché. C'est être indifférent à son salut, c'est être blasé. Et c'est cette expression-là qui m'a travaillé. Je me dis, mais attends, voir, quand est-ce que dans ma vie, est-ce que je ne suis pas des fois un petit peu blasé? Un petit peu, ouais, bon, on mettra ça à demain, quand Dieu me dit quelque chose, quand Dieu me dit, j'aimerais, ou que j'ai un dedans de moi, j'aimerais prier, et puis, ouais, mais j'ai encore ça à faire. Je me suis posé la question, sur quoi est-ce que mon zèle est basé pour suivre Jésus? Quelle est la force qui me motive dans mon aspiration profonde d'avoir une paix et une sécurité? C'est l'amour pour Jésus ou c'est un peu d'égoïsme? Et il m'arrive de m'habituer au salut comme quelque chose de banal. C'est presque un dû. L'Épître aux Hébreux nous rappelle que c'est grave de négliger le salut que Dieu nous offre. Et en négligeant, j'oublie que c'est moi, que c'est nous qui sommes les représentants de Dieu dans ce monde, aux côtés du Saint-Esprit. Et nous sommes les ambassadeurs visibles de Dieu. Si on se rappelle quand on a mis notre foi en Jésus, quand nous sommes convertis, Galates nous dit que c'est Dieu notre Père qui nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Donc il y a vraiment eu un changement d'environnement. C'est ce transfert qui nous permet de faire la différence entre le sommeil, la nuit, la mort, qui sont induits par l'ignorance, l'endurcissement ou un comportement contraire au projet de Dieu, et la lumière du jour. Cette action que Dieu a faite dans nos vies nous fait entrer pleinement dans nos capacités de fils et de filles héritiers du royaume de Dieu. Dans cette connaissance, dans cette lumière, on n'est plus dans les ténèbres pour être surpris, mais on attend l'œuvre du Seigneur. Dieu nous a destinés à un héritage de vie. Et cet héritage, ce changement, renouvelle nos pensées. Il permet de ne plus nous conformer au monde actuel, mais à celui des valeurs du royaume de Dieu et de grandir dans la ressemblance à Christ. C'est un peu ce que Paul dit dans Romains 12. Plus je connais Jésus, plus je lui ressemble, plus je puis puiser mes forces dans les ressources infinies de sa puissance. Et je ne sais pas si vous avez entendu, mais dans la lecture, au verset 5, Paul change de pronom. Il passe de l'enseignement à l'encouragement, du « vous » au « nous ». Nous ne sommes point des ténèbres ni de la nuit. Nous sommes du jour. Alors simplifions-nous la vie, changeons en revêtant, combattre en étant dans le jour, non plus avec nos propres forces, mais en revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour et le casque de l'espérance du salut. Ça nous fait tout de suite penser à Éphésiens, mais aussi dans Ésaïe 59, c'est les attributs qui sont décrits que porte l'envoyé du Seigneur qui préfigure Jésus. Il y a aussi le casque, il y a aussi la cuirasse. Être revêtu nous permet de rester ferme, mais ça demande une motivation, un désir profond, un prix à payer. Et je prie Dieu que ce prix me dissuade, ne nous dissuade pas et ne nous incite pas à la négligence. Demandons à l'Esprit de nous ouvrir les yeux sur les entraves qui nous retiennent dans notre obéissance, de débusquer ces tendances en nous, et que tout au long de cette démarche, Jésus nous désaltère de l'eau, de son eau, pour que je ne me dessèche pas et que je ne m'étiole pas. Alors à la fin de ce texte, il y a le verset 11 qui dit « C'est pourquoi ». C'est pourquoi, après avoir exposé ces réalités spirituelles, Paul vient nous dire tout concrètement, voilà comment il faut y aller. Et il y avait 18 exhortations, 18 encouragements qui sont là, qui sont les résultats de l'amour de Jésus pour nous et de celui qu'on a pour lui. Quand le Saint-Esprit nous anime, quand il nous encourage, ben on entre dans ces domaines. Ce ne sont pas des marches d'escalier qui nous permettent d'arriver à un sommet. C'est vraiment l'expression de ce qu'on peut vivre avec lui. Alors, j'espère que ça va marcher avec l'écran. Je ne sais pas si tu arrives à faire manuellement, Claudin. Voilà. Exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres ou aidez-vous à grandir dans la foi, comme en réalité vous le faites. Ayez de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous ou pour ceux qui vous dirigent dans le Seigneur, ceux qui vous exhortent. Ayez beaucoup d'affection pour eux à cause de leur œuvre. Suivant, soyez en paix entre vous. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Je m'arrête à consoler ceux qui sont abattus. On a là toute une énumération et je propose qu'on reste attentif à où est-ce que Dieu veut nous parler ce matin. On en a vu 6, on va voir les suivantes. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Que personne ne rende recherché tout pour le mal. Recherchez toujours le bien entre vous et avec tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ne méprisez pas les prophéties. Il y a avant, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Quel menu. Alors on fait un petit moment de silence pour, j'allais dire, savoir de quoi Dieu va nous nourrir un moment. Hein? Où est-ce qu'il a envie de m'encourager, de grandir? C'est vrai que si on médite, et vous pourrez le faire à la maison encore une fois, hein, croire en Jésus, c'est complètement contre-courant. Mais ici aussi, il y a la bonne nouvelle. Ici aussi, il est dit, c'est Dieu qui nous équipe. C'est Dieu qui nous donne l'équipement. Alors ayons l'audace de saisir l'équipement qu'il nous fournit. La cuirasse de la foi et de l'amour, le casque de l'espérance du salut. Et c'est là que Romains 12, verset 2, est une promesse de transformation. Paul nous dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors quand j'ai commencé à creuser, ce message était pour moi une invitation à grandir, et je trouvais bon qu'on puisse le partager ce matin. C'est un encouragement à persévérer. Et plus on grandit, plus on persévère, plus notre marche sera fortifiante et deviendra passionnante. Le Seigneur est là, c'est lui qui agit. Soyons joyeux sur son action et de sa volonté d'agir en notre faveur et au travers de nous. Jésus est vainqueur, rappelons-nous. Alors ce matin, si Dieu nous touche et nous exhorte, recevons-le comme une aide pour notre croissance, pour faire face à nos défis, et non comme un joug qui nous condamnerait ou alors une loi de plus à accomplir. Si Dieu nous parle ce matin, si Dieu nous montre un domaine dans lequel il aimerait nous voir grandir, acquérir plus de liberté, prenons du temps avec quelqu'un pour dénoncer les obstacles qui sont sur notre chemin. Dieu est notre berger, le péché, l'incrédulité, la peur ou bien d'autres choses encore. Dieu est notre berger, il a envie de prendre soin de nous. Présentons-lui notre situation pour prendre position, pour s'en distancer, pour invoquer la libération qui nous est nécessaire. Et avec l'autorité qu'on a, quand on est deux ou trois réunis en son nom, les choses changent. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Dieu a promis. C'est la parole de Jésus à Pierre et c'est encore valable pour nous aujourd'hui. Alors avec ce cheminement, là où Dieu nous place, nous pouvons être des lumières, des sentinelles par notre attitude, par notre prière, et ça, nous faisons connaître Dieu. Que nous grandissions, c'est le projet du Seigneur. Que nous tenions bon, c'est le projet du Seigneur. Sa bénédiction est sur nos pas, jour après jour. Alors je vous propose de relire cette dernière prière de Paul en se l'attribuant, en se l'appropriant personnellement ou bien en communauté. Je la lis maintenant. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui nous appelle, celui qui nous a appelés, est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen.